Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Alléluia, Alléluia. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Mes très chers frères, après avoir gémi si longtemps dans la servitude en Égypte, voici que l'agneau de Pâques a été immolé. Nous avons marqué le seuil de nos maisons avec son sang, c'est-à-dire nous avons été marqués par son sang lors de notre baptême, et nous avons traversé la mer rouge du péché pour arriver dans la terre promise, c'est-à-dire l'état de grâce dans lequel nous sommes capables de triompher par la charité de la concupiscence. Nous voici dans le temps de Pâques, les choses anciennes sont passées, le temps de la pénitence est passé, même si c'est tous les jours le temps de la pénitence, bien sûr, mais la pénitence liturgique est passée, nous voici dans la lumière de notre Seigneur ressuscité. En ce dimanche de Pâques, nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Dans un premier point, nous dirons quelque chose à propos du Christ qui a vaincu la mort, et que s'il a vaincu la mort, c'est qu'elle n'est donc pas naturelle à l'homme. Et nous verrons comment l'homme est mort sans la grâce du Christ. Cela nous amènera à un deuxième point où nous dirons comment la grâce nous ressuscite, et nous verrons son action sur la volonté et sur la liberté de l'homme. Et cela nous amènera ensuite à un troisième point où, avec l'aide du Saint-Esprit, nous verrons comment le Christ triomphe de la mauvaise volonté. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous venons de chanter la séquence Victime Pascali Laudes, et dans la troisième strophe, il est dit ceci, la liturgie nous fait dire ceci, « Mors et vita duello conflixere mirando, dux vite mortus regnat vivus ». La mort et la vie ont engagé un stupéfiant combat, l'auteur de la vie était mort, voici qu'il règne et vit. Mes très chers frères, la résurrection de notre Seigneur nous fait poser naturellement la question de la mort. Question rhétorique évidemment, puisque tout ceci nous le savons, puisque nous sommes chrétiens, mais néanmoins c'est l'occasion d'en dire quelques mots. Si la mortalité était une caractéristique de la nature de l'homme, il serait absurde de parler du triomphe du Christ sur la mort. Autant dire qu'il aurait à grands frais, puisqu'il aurait souffert, il se serait incarné, il aurait souffert sa douloureuse passion, il serait mort. Autant dire qu'il aurait à grands frais amélioré l'œuvre du Créateur. C'est donc une grande absurdité, et même d'une certaine manière un grand blasphème, que de dire que l'homme, si Dieu ne l'avait pas immédiatement après l'avoir créé, l'avoir façonné de la poussière du sol, ne l'avait pas bardé, doté de toutes sortes d'antidotes, eh bien, il aurait eu la concupiscence, il serait mort au bout d'un certain temps, car l'homme aurait été un animal comme un autre. Mes très chers frères, il n'y a pas d'état naturel de l'homme. Il y a un état normal de l'homme. L'état normal de l'homme, c'est l'homme dans l'état d'innocence. Ce n'est que l'homme normal, l'homme, si l'on doit parler de nature de l'homme, c'est cet état d'innocence, qui est un état d'immortalité, qui est un état d'amitié avec Dieu, qui est un état de justice, qui est un état de puissance, et qui est un état un état d'amitié. Je ne dis pas un état de grâce, parce qu'il faut garder cette expression d'état de grâce pour la réparation accomplie par notre Seigneur. C'est un état où l'homme est ami de Dieu. Dieu venait lui parler tous les jours dans le paradis terrestre, il venait marcher avec lui. Il y a là quelque chose de presque incompréhensible pour nous qui vivons avec une telle habitude des effets de la chute. La mort n'est donc pas naturelle à l'homme. Dieu n'aurait pas pu créer l'homme mortel parce que sinon, ce qu'il aurait créé n'aurait pas été un homme. Ça aurait été autre chose. Ça aurait été les autres animaux, les autres choses qu'il a créées dans la création, qui sont toutes très belles, mais qui sont limitées. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit dans un état d'amitié avec lui. Et cet état d'amitié ne devait prendre fin ne devait pas prendre fin par ce que nous appelons la mort, et ce qui est pour nous la mort, c'est-à-dire la cessation des fonctions vitales du corps, entraînant une séparation de l'âme, principe vital de l'homme, et de son corps, mettant l'homme dans une situation terrible, c'est-à-dire une situation qui est semblable aux bêtes, semblable et même à la matière inanimée, c'est-à-dire que lorsque l'âme quitte le corps de l'homme, le corps de l'homme ne peut pas faire autrement que de retourner à la poussière dont il a été tiré. Voyez-vous, mes très chers frères, si notre Seigneur est dit le triomphateur de la mort, et si la mort est quelque chose de finalement très naturel à l'homme, alors il est le triomphateur de la nature humaine, ce qui est absurde. Et c'est une injure au Créateur, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose de mauvais dans la créature humaine, et au mieux, comme nous l'avons dit, ce serait un perfectionnateur, si le mot existe, de la nature humaine, ce qui est absurde, et ce qui serait encore une insulte au Créateur, comme si le Créateur n'avait pas assez bien fait les choses, comme si son propre fils avait dû souffrir et mourir pour améliorer la machine humaine, et encore, nous continuons à mourir, mais pas pour les mêmes raisons. Voyez-vous, mes très chers frères. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'homme est mort. Depuis qu'il a transgressé le commandement de Dieu, l'avertissement de Dieu s'est réalisé. Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Depuis que l'homme a chuté, tous les hommes qui sont nés de l'homme primordial, de l'homme Adam, de notre premier père, et donc de notre première mère, eh bien, naissent morts, morts spirituellement. Pourquoi ? Parce que tout ce qui ne vit pas pour Dieu est mort pour Dieu, quand bien même cette créature humaine serait vivante sous un certain rapport. Tout ce qui ne vit pas pour Dieu est mort pour Dieu. Or, comme il n'y a que Dieu et son point de vue, si j'ose m'exprimer en des termes trop humains, il n'y a que Dieu et son point de vue qui comptent, tout ce qui n'est pas pour Dieu est mort pour Dieu, et tout ce qui est mort pour Dieu ne vaut rien. La mort, c'est l'état, cette mort qui n'est pas une mort physique, c'est une mort en attendant la mort physique, cette mort dans laquelle nous vivons, oui, et nous naissons, cet état de mort, mort spirituelle, c'est précisément l'état de volonté propre. C'est l'état de cupidité ou de concupiscence. Cupidité, concupiscence, c'est le même mot. C'est-à-dire un état d'aliénation de Dieu, où nous naissons ennemis de Dieu. Non pas simplement ennemis de Dieu, parce que comme on dit, on serait né dans le mauvais camp. Nous naissons dans de la postérité d'Adam, et dès que la raison est suffisamment formée en nous, nous nous découvrons une irrésistible tendance à transgresser tout ce qui peut être connu comme étant quelque chose comme un interdit ou comme quelque chose qui n'est pas qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est tellement vrai que la plupart du temps, même les lois humaines qui sont, surtout à notre époque, un lointain écho, bien souvent mutilé, de la loi de Dieu, même ces lois-là, nous avons tendance à vouloir les transgresser. Pour toutes sortes de raisons. Et évidemment, ce sont toujours des bonnes raisons. Je transgresse les limitations de vitesse parce que, de toute façon, c'est du racket, etc. Ce qui est, sous un certain rapport, c'est pas forcément totalement faux. Et sous un autre rapport, quand bien même les limitations de vitesse seraient limitées à la limitation de vitesse serait du 200 à l'heure, il me semblerait que je suis spolié et que je ne suis pas libre tant que je ne fais pas du 250 ou au moins du 205. Voyez-vous, mes très chers frères, ce sont des choses qui c'est un peu caricatural, mais regardons-nous bien, dès qu'il y a un interdit, quelque chose en nous se révolte, quand bien même ce serait un interdit dont notre raison nous dirait que nous avons tout intérêt à respecter, comme par exemple le fait de les petits-enfants, on leur dit si tu touches cette chose qui est brûlante, le four ou le feu, tu vas te brûler. L'enfant sait qu'il va se brûler, peut-être qu'il a une idée de la douleur de ce que c'est que de se brûler, et pourtant quelque chose en lui, la curiosité, le désir de transgresser, fait qu'il doit, dans le meilleur des cas, faire un violent effort sur lui-même pour ne pas toucher cette chose que par ailleurs, rationnellement, il sait lui être nocive. C'est ainsi que, et nous prenons que des choses presque innocentes, comme exemple. C'est ainsi que l'homme naît mort, c'est-à-dire naît dans cet état de concupiscence, cet état de volonté propre. C'est un état d'aliénation de Dieu où nous nous révélons à nous-mêmes ennemis de Dieu, rebelles contre Dieu, aliénation de Dieu, donc aliénation de notre raison d'être. Car comme l'homme n'a pas été créé pour une autre raison que l'amitié divine, pour le dire en un seul mot, en une phrase condensée, l'homme n'a pas été créé pour une autre raison que l'amitié divine, tant qu'il n'est pas ami de Dieu, si j'ose dire, il est en deçà de sa raison d'être, il est dans un état d'absurdité. Même un chien, même un moustique, même une larve dans un étang est plus proche de sa raison d'être que l'homme qui ne vit pas pour Dieu. Alors même que ce ne sont pas des états qui sont très enviables. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors vous allez dire, oui, mais je suis aliéné de Dieu, de ma raison d'être, mais après tout, ça ne m'empêche pas de vivre. C'est ce que disent les gens du monde, les gentils, effectivement. À cela, l'Église ajoute que, et ils ne s'en rendent pas compte la plupart du temps, c'est que cette aliénation de Dieu s'accompagne d'une servitude vis-à-vis du démon. C'est-à-dire que non seulement nous sommes ennemis de Dieu, non seulement nous sommes plus ou moins amis ou complices du démon, si tant est qu'on puisse s'exprimer ainsi, mais nous sommes aussi esclaves du démon. Nous sommes aliénés de Dieu, aliénés de notre raison d'être, esclaves du démon. Et comme nous le disons souvent à la suite des maîtres, il se trouve que la servitude du démon est une des plus douces servitudes qui puissent exister, puisque dans l'état d'esclave du démon, nous sommes condamnés à faire tout ce que nous voulons. Et ça peut paraître comme ça, abstraitement, ça peut paraître une sorte de fausse condamnation, puisque qu'y a-t-il de plus agréable que de faire tout ce que l'on veut? Mais vous savez très bien, mes très chers frères, que de temps en temps, même les mondains, même les gentils, même les païens, même les mécréants, éprouvent une certaine lassitude dans ce qui se révèle sporadiquement à eux comme étant un esclavage d'eux-mêmes. Et bien souvent, quand on voit ça chez les gens qui rentrent dans toutes sortes de fausses religions ou des sectes, etc., bien souvent, ils s'engagent dans ces voies-là, encore une fois sous l'effet de la volonté propre, mais afin d'avoir l'impression de pouvoir être soulagés de la tyrannie de leur volonté propre. Ils continuent à être à suivre leur volonté propre, sauf qu'ils le font d'une façon médiée par la volonté d'autrui. Non seulement nous sommes aliénés de Dieu, non seulement nous sommes aliénés de notre raison d'être, non seulement nous sommes sous la servitude du démon qui est à la fois terrible et très douce, très agréable, mais encore, si ce n'était que ça, on pourrait dire, bon, ben, c'est moi qui l'ai choisi. On pourrait dire cela. Mais l'Église ajoute que nous sommes dans un état d'enfant de colère. Et il y a bien des erreurs qui se disent sous divers prétextes ou des demi-vérités qui se disent à ce propos. Nous sommes dans un état d'enfant de colère, c'est-à-dire que chaque individu qui naît dans ce monde est l'objet de la colère de Dieu. Alors, on va dire, mais les petits-enfants, et a fortiori les petits-enfants qui ne sont pas encore nés et qui sont aussi victimes de toutes sortes de la méchanceté des hommes, etc., et sont-ils enfants de colère? Pourtant, ils n'ont rien fait. Mes très chers frères, ils n'ont rien fait, sinon qu'ils étaient en Adam, comme nous tous, au moment où il a péché, et que en lui, par cette volonté primordiale de notre premier Père, nous avons acquiescé à ce qui se fait. C'est pour cela, j'en profite pour dire une chose, c'est pour cela qu'on dit, ces pauvres petits-enfants qui sont tués dans le sein de leur mère, c'est terrible de penser c'est terrible de penser qu'ils vont en enfer. C'est ça la réalité. Si l'âme rationnelle est en eux et qu'ils sont tués, ils vont directement en enfer. C'est pour cela, encore une fois, je vous le rappelle, que notre roi Louis XIII avait fait une loi très sévère contre les infanticides, et donc a fortiori, etc., à divers titres. Premièrement, parce qu'ils privent le père de son enfant. Ensuite, parce qu'ils commettent un meurtre. On n'a pas le droit de tuer un homme, qu'il soit né ou qu'il ne soit pas né. Et ensuite, pour un crime de cruauté spirituelle, c'est-à-dire que c'est un crime qui envoie directement cet être humain qui n'est pas encore né en enfer. Et c'est une chose terrible. C'est une chose terrible que de penser que, à moins d'être baptisé, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Il y a bien des erreurs, disais-je, qui se disent à propos de l'amour que Dieu a pour l'homme. Dieu aime, nous aime, Dieu aime l'homme, mais c'est toujours par la médiation de son Verbe, de son Fils. Dieu est le péché, dit l'Écriture, et il est aussi le pécheur, car le péché n'existerait pas sans le pécheur. On dit souvent « Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché ». Sous un certain rapport, ce n'est pas faux. Sous un certain rapport, c'est une affirmation qui prend en compte les états postérieurs du pécheur qui deviendra pénitent, qui deviendra injuste, donc quelqu'un de juste, et donc qui est déjà aimé par Dieu en raison de ce que Dieu fera de lui plus tard. Mais en réalité, Dieu est le péché comme il est le pécheur, car sans pécheur, il n'y aurait pas de péché. Pourquoi est-il le pécheur ? Parce que celui-ci spolie Dieu de ses droits sur sa créature. Vous allez dire, Dieu est bien mesquin, il ne peut pas comprendre que... Il comprend. Qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend qu'il a créé l'homme dans un état d'innocence, dans un état parfait, dans un état central, dans un état où la volonté de l'homme étant bien orientée, tout ce qui procédait de la volonté de l'homme plaisait intrinsèquement à Dieu. Et l'homme a choisi d'écouter le démon. Qu'est-ce que Dieu a à comprendre encore ? Nous voyons immédiatement après la chute, Dieu commençait déjà à préparer la rédemption future. Néanmoins, l'homme était tellement, nous disent les pères et les catéchistes, était tellement dans un éloignement de Dieu et dans une jouissance de lui-même, que Dieu a différé pendant un certain nombre de millénaires, 4000 ans, 5000 ans, la rédemption, jusqu'à ce que l'homme, grâce au moyen de la loi de Moïse, l'homme, spécialement le peuple d'Israël, qui était le seul peuple à connaître le vrai Dieu durant tous ces millénaires, que l'homme prenne conscience de la concupiscence. La concupiscence, qui est une chose qui est un thème extrêmement courant pour nous chrétiens, nous l'entendons presque tous les dimanches ou nous le lisons presque tous les jours dans nos livres, effectivement, la concupiscence est une chose inconnue à l'homme. La concupiscence est à l'homme déchu, en quelque sorte, si j'ose faire une comparaison d'ordre naturel, ce que l'œil est à la vision, c'est-à-dire que l'œil humain peut voir absolument tout, et même plus encore s'il utilise un microscope ou un télescope, la seule chose qu'il ne verra jamais, c'est lui-même. À moins qu'il se voie dans un miroir. Et c'est pour cela que la loi nous est donnée comme un miroir dans lequel nous nous regardions et nous prenions conscience d'à quel point, nous sommes devenus monstrueux, déviés, déchus, aliénés de Dieu, aliénés de notre raison d'être, esclaves du démon, enfants de colère. Dieu est le péché et il est le pécheur sans lequel il n'y a pas de péché. Car celui-ci spolie Dieu de ses droits sur sa créature. Malheur à celui qui trouve Dieu mesquin après tout ce que Dieu a fait pour l'homme. La justice de Dieu, voyez-vous, mes très chers frères, est une chose dont il est une réalité qu'il ne faut pas oublier. On pourrait dire, oui, mais est-ce que Dieu ne peut pas pardonner ? Après tout, nous ne sommes pas Dieu, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que Dieu ne peut pas pardonner ? Dieu, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le Dieu des musulmans qui fait les trucs, et puis après qui dit, oh ben, de toute façon, Dieu, l'homme étant tellement infiniment faible et différent de moi, et non associable avec moi, que évidemment il pêche, il fait n'importe quoi, je lui pardonne, etc. Je pardonne parce que je suis miséricordieux. Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux en son Fils. Il est miséricordieux non pas par une sorte de miséricorde qu'il aurait d'une façon permanente pour sa créature, il est miséricordieux parce que, de façon incompréhensible, la justice de Dieu, qui est la première chose à laquelle l'homme se heurte après la chute, la justice de Dieu a été accomplie pour les élus par notre Seigneur au Calvaire. C'est-à-dire que notre Seigneur, en une seule fois, a porté, lui, vrai homme et vrai Dieu, en lui-même, dans son âme, dans son corps, le prix de la damnation éternelle de tous ceux qui devaient être sauvés gratuitement par sa grâce. C'est pour cela qu'ils se trompent complètement, ceux qui veulent verser des larmes sur la passion selon le chirurgien et autre chose comme ça, où on parle de pleurésie et autre chose. C'est la réalité. Lisez les vrais auteurs, mes très chers frères, je ne parle pas à vous, évidemment, je dis ça, c'est une façon rhétorique, parce que vous les connaissez, vous les lisez, mais lisez les auteurs, lisez les auteurs catholiques. Ils ne vous parleront pas des souffrances physiques du Christ qui ont été immenses. Ils parleront des souffrances de son âme, lui qui étant le saint par excellence, tout solus sanctus, lui qui étant le Saint, le Seigneur, a été fait péché pour nous. C'est-à-dire que non seulement il a expié nos péchés, mais pour expier nos péchés, il a été traité par son Père en une seule fois, mystérieusement, comme étant pécheur. Et c'est un mystère qui est très développé dans les psaumes, pour ceux qui savent les lire selon l'esprit de l'Église et les pratiquer selon l'esprit de l'Église, lorsque le Christ confesse ses péchés, en réalité, il confesse nos péchés dont il s'est chargé, lui l'agneau de Dieu, lui le bouc émissaire, sur lequel ont été transférés nos péchés. La justice de Dieu, à laquelle l'homme se heurte dès qu'il sort de la volonté de Dieu, dès qu'il fait sa volonté propre, structure l'ordre des choses. C'est pour ça que l'ordre des choses ne peut pas être changé. Malheur à ceux qui changent l'ordre des choses. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu, structure l'ordre des choses. La sainteté de Dieu nous fait parvenir cet ordre des choses à sa fin. Or, la volonté propre de l'homme, c'est la puissance de non-participation à Dieu en tant que fin. Tout homme fait la volonté de Dieu. Tout homme qui pêche, le mécréant qui blasphème, l'insensé qui dit « il n'y a pas de Dieu », fait la volonté de Dieu, sauf qu'il ne participe pas à la volonté de Dieu qui se réalise sous la motion de sa sainteté, Dieu en tant que fin. J'abrège parce qu'on pourrait faire un sermon rien que sur ce thème. La volonté propre, c'est donc la concupiscence, la cupidité, c'est la puissance de non-participation à Dieu en tant que fin. C'est donc une folie absolue que de vouloir chercher son bonheur en dehors de Dieu ou sans Dieu, et c'est une impiété terrible que de vouloir faire servir Dieu à la quête de notre bonheur. Vous savez, les gens qui se convertissent parce qu'ils veulent être plus heureux, parce qu'ils veulent rendre à la nation sa gloire d'antan, etc. Donc du coup, ils embrigadent Dieu comme si c'était leur valet pour arriver à leur fin. C'est une impiété. C'est une impiété. C'est une impiété terrible. Et néanmoins, elle est moindre que ceux qui leur font croire que c'est pour cela qu'il faut se convertir. C'est une folie absolu que de vouloir chercher son bonheur sans Dieu, en dehors de Dieu, ou avec Dieu, comme si Dieu était notre valet, même comme s'il était notre ange gardien. La liberté, voyez-vous, mes très chers frères, la liberté, on va dire, pourtant l'homme est libre, mais bien sûr qu'il est libre, comme nous l'avons dit, nous le répétons presque tous les dimanches depuis un moment, bien sûr qu'il est libre, mais la liberté ne consiste pas, selon les théologiens, à pouvoir faire un choix, ou bien le bien ou bien le mal, c'est pas ça en quoi consiste fondamentalement la liberté. La liberté de l'homme consiste dans la capacité de coïncider avec la volonté divine. Lorsque je peux faire exactement tout ce que je suis supposé faire, et c'est-à-dire que tout ce que mon devoir ou ma nature, ma raison d'être me demande de faire, exige de moi, alors je suis libre. C'est pour cela que l'homme, en écoutant, ou plutôt la femme et ensuite l'homme, en écoutant le démon, sous la forme du serpent ancien, ont aliéné leur volonté. Ils ont aliéné leur volonté au démon, qui le leur a rendu sous la forme de l'esclavage de la volonté propre, l'esclavage de la concupiscence. La liberté, en réalité, c'est comme la santé, si vous me permettez cette comparaison. Quand on la possède, on n'y pense pas, on ne l'aperçoit pas. C'est quand on est malade qu'on pense à la santé. Quand on est libre, on obéit à Dieu. On n'est pas en train de se dire « je suis libre, je suis un homme libre, je suis libre ». Non, on obéit à Dieu. J'obéis à Dieu parce que je suis libre, parce que le Christ m'a mis en liberté, justement. Mais on obéit à Dieu par amour, par gratitude et par esprit filial. Quand on est esclave, on est mort, on est attaché à son libre arbitre, voyez-vous ? Et c'est exactement de la même manière que celui qui est malade se dit, nonobstant ma maladie, je peux encore faire ceci ou cela. Bon, j'ai mal aux pieds, mais je n'ai pas mal aux mains, donc je peux encore faire des choses avec mes mains. Vous voyez, j'ai la grippe, mais en même temps, je n'ai pas un cancer, voyez-vous, ou d'autres choses encore. Je suis enrhumé, je ne sens plus les choses, mais je peux encore me promener, vous voyez. Donc, quand on n'a plus la santé, on se rattache à des bribes de choses que l'on pouvait faire quand on était en santé et qui ne sont pas totalement empêchés par notre état de maladie. Mais quelle misérable santé que ce que l'on peut faire en dépit de notre maladie. Alors c'est déjà bien, Deo gratias, tant mieux, bien entendu. Mais ce n'est pas la santé, ce sont des bribes de santé. La liberté de l'homme, quand il est esclave de la concupiscence, ce n'est pas la liberté en plein, ce sont des bribes de liberté. Oh mais je peux choisir entre le bien et le mal, je peux choisir de mettre un pull rouge ou un pull vert. Quelle gloire! Quelle gloire! Je peux choisir le bien et le mal, entre le bien et le mal. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai devant moi un clochard, j'ai envie de lui donner 1 million. Mais en même temps, je pourrais lui donner 1 million, je pourrais lui donner aussi rien du tout, un coup de pied derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je choisis peut-être de lui donner 1 million. Pourquoi? Parce que c'est, après tout, ça me fait de la peine, parce que par amour de l'humanité, pour l'amour de Dieu. Et puis quoi encore? Je préfère encore lui donner un coup de pied derrière. Si c'est Dieu qui me commande, je ne suis pas libre. Tandis que si je lui donne, par amour de l'humanité, mon million que je veux lui donner, alors je fais un acte libre. Non, mes très chers frères, je fais un acte d'esclavage, d'esclave. Je suis infailliblement porté à faire tout ce qui peut être défini comme bien, mais le faisant contre Dieu, sans Dieu, cela ne vaut rien. Et même cela est compté comme une impiété de la part de Dieu, parce que quand je mime, quand je singe le bien, alors que je méprise Dieu, je fais quelque chose de pire que quelqu'un qui fait le mal sans y penser ou en s'en plaignant ou même contre Dieu. Faire le mal contre Dieu est moins grave aux yeux de Dieu, je parle dans l'extrême bien sûr, que de faire le bien sans Dieu, aux yeux de Dieu. Voilà l'état dans lequel nous sommes, mes très chers frères, voilà l'état dans lequel nous étions, plus précisément, puisque nous ne sommes plus dans cet état, puisque nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Nous devons... C'est pour nous restituer la santé du libre-arbitre que le Christ a été immolé. C'est pour cela que dans la deuxième strophe de la séquence, nous disons « L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec son Père. » C'est notre deuxième point. Dans l'oraison, il est mentionné deux mots ici dont nous dirons quelque chose. « Devicta morte ». Deus qui odianadie per unigenitum tuum, eternitatis nobi aditum devicta morte reserasti. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en ce jour, ô Seigneur, en ce jour où par votre Fils unique, vainqueur de la mort, devicta morte, c'est traduit ici par vainqueur de la mort. Mais en réalité, c'est une paraphrase. Devicta morte, ça signifie la mort ayant été vaincue. C'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La mort ayant été vaincue. C'est-à-dire que la mort du corps, vous le savez, est le châtiment de la mort de l'âme. D'abord, l'homme meurt spirituellement, et ensuite, il finit par mourir misérablement, corporellement. En se soumettant à la mort sans l'avoir méritée, puisqu'il était sans péché originel, sans péché, le Christ a triomphé de la puissance du démon sur l'homme, du droit que le démon avait acquis sur l'homme. Le Christ, dit l'Écriture, a dépouillé le démon de ses dépouilles. Il a racheté ce qui était à lui. Non pas comme si le démon avait volé quelque chose à Dieu et en avait réellement spolié Dieu, mais il se trouve que parce que Dieu est infiniment juste, Dieu a reconnu au démon le droit que le démon avait sur l'homme, le droit relatif que le démon avait sur l'homme, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'homme déchu, en tant qu'homme en dissocié, aliéné de sa raison d'être, donc dissocié de Dieu. C'est pour cela que l'homme dont on dit qu'il ne peut pas être uni à Dieu est véritablement un homme démoniaque. Il y a des religions dont la gloire, c'est de restituer l'homme à son état le plus naturel, c'est-à-dire le plus démoniaque. Que Dieu éclaire les païens, les mécréants, les infidèles qui pensent ces choses-là. Et nous avons prié pour eux, d'ailleurs, Vendredi Saint, pour que les païens soient détournés de leur fausse doctrine, des idoles et de toutes les choses qui les retiennent loin de la vérité. Mais que Dieu nous garde de rien avoir à faire avec eux. Le Christ a racheté à Dieu ce qui était à lui-même. Il n'a pas racheté aux démons. Certains anciens ont cru que le Christ avait racheté aux démons. Ce n'est pas exact, ce n'est pas vrai. Le Christ a racheté à Dieu, c'est-à-dire il a racheté à la justice de Dieu. L'asservissement aux démons, c'est le prodrome de l'enfer. L'enfer a été créé pour le démon et ses anges, et le fait que le démon, ici-bas, règne sur l'homme déchu, et pour l'homme déchu, le prodrome de l'enfer, dans le sens où c'est une proximité avec le démon qui ira en s'accroissant et en devenant de plus en plus horrible et terrible, que Dieu nous garde. Bon. Donc, vous voyez, le Christ n'a pas racheté l'homme déchu au démon. Comme l'asservissement de l'homme déchu au démon est un effet de la justice de Dieu, le Christ a racheté l'homme à la justice de Dieu, en accomplissant la justice de Dieu. Il a triomphé de la mort a été vaincue. La mort, dans sa racine, dans sa cause, a été vaincue par le Christ. Et ensuite, que dit l'oraison ? Elle dit « En ce jour où, par votre Fils unique, vainqueur de la mort, donc la mort ayant été vaincue par lui, vous nous avez ouvert de nouveau les portes de l'éternité. » Eternitatis aditum, les portes ou l'accès à l'éternité. L'accès à l'éternité, qu'est-ce que c'est ? Ça signifie que toute autre voie est illusoire et mensongère. Toute autre voie mène à la damnation. Il n'y a que dans l'Église, la Sainte Église catholique, que l'on peut être sauvé. Toute autre voie mène à la damnation. Quand on est protestant, on se damne. Quand on est païen et autre chose, on se damne. Lorsqu'on est membre de la néo-Église, on se damne. Lorsqu'on assiste aux cérémonies de la néo-Église, lorsqu'on est baptisé par la néo-Église, lorsqu'on communie à la néo-Église, on se damne, mes très chers frères. Ce n'est pas des gens qui sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, ni plus ni moins, enfin un peu plus, mais, ou un peu moins, ça dépend du point de vue, mais que les païens, que les autres païens, que les autres gentils. C'est la gentilité apostate, mes très chers frères. Quand on est là et qu'on célèbre la résurrection du Christ chez les schismatiques ou chez les apostats néo-catholiques, on se damne, tout simplement. Alors évidemment, ils sont moins loin que les autres qui sont très loin et qui adorent les idoles, mais on se damne, ils se damnent également. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est très important. L'accès à l'éternité ne nous est accessible que dans l'arche du salut qu'est la Sainte Église catholique. La porte est étroite et resserrée. Alors on dit souvent, les universalistes de ces derniers siècles disent, mais ils citent le psaume des profondis, ils disent, le salut est abondant, le salut est abondant, le salut auprès du Seigneur est abondant. Bien sûr qu'il est abondant. Le Christ nous a acquis une rédemption abondante. Copiosa podomum est redemptio, et ipse redimet Israël, et lui-même rachètera Israël. Le salut est abondant pour l'Israël de Dieu, c'est-à-dire pour tous ceux pour lesquels le Christ est mort, pour tous ceux que le Christ a versé son sang. Le Christ ressuscité, dans la séquence, est appelé le dux vitae, le chef, le guide, le chef de la vie. Il est appelé dux vitae. On est vivant que si l'on est conduit par lui. Vous voyez la difficulté de traduire exactement, d'où la nécessité de l'Église, le ministère des prêtres est aussi d'expliciter les choses. Dans la traduction que j'ai sous les yeux, on dit l'auteur de la vie, mais quoi l'auteur de la vie? L'auteur de la vie comme il est des hommes, comme il est l'auteur de la vie des moustiques, des chiens, des puces, etc. Non, dux vitae, celui qui guide la vie de l'homme, c'est-à-dire celui sans la rection, sans la direction duquel l'homme est mort. On est vivant que si l'on est conduit par ce dux, par ce chef, ce guide de la vie des vivants. Ou bien il est notre dux, c'est-à-dire notre guide, notre chef, notre guide plus précisément, ou bien nous sommes dans l'esclavage de la volonté propre et donc du démon. On ne peut pas avoir deux maîtres. Voyez-vous, ce dux vitae, ce chef, ce guide de la vie plus précisément, s'est battu en duel avec le père du mensonge qui est, dit saint Jean, homicide dès le commencement. Adhérer au père du mensonge, homicide dès le commencement, adhérer à ce dernier, c'est être battu par le Christ, car le Christ a triomphé de l'homicide. Il a triomphé de l'auteur de la mort. Il a triomphé du démon. Bienheureux ceux que le Christ, terrasse et jette à terre et auxquels il inspire de renoncer à eux-mêmes, comme il l'a fait pour saint Paul, par exemple, lorsque, écumant de rage et ruminant plein de mauvais desseins contre l'Église de Dieu, le Christ l'a précipité à bas et s'est révélé à lui et l'a converti, comme il l'a fait aussi pour notre Saint-Père Augustin et encore plein d'autres, mes très chers frères, avec plus ou moins d'éclat, mais toujours selon le même principe. C'est le Christ lui-même qui, à un certain moment, prend possession de ce qui lui appartient, de ce qu'il a racheté au calvaire, à la justice de Dieu. Voyons maintenant, c'est notre troisième et dernier point, comment le Christ triomphe de la mauvaise volonté. Cette oraison, l'oraison du dimanche de Pâques, est extrêmement importante. Nous devrions la graver dans notre cœur, la graver dans notre mémoire du moins, pour pouvoir avoir exactement le vocabulaire de l'Église. En ce jour où, par votre Fils unique, la mort ayant été vaincue, vous nous avez ouvert à nouveau l'accès à l'éternité. Daignez, Seigneur, vous qui prévenez et qui inspirez nos vœux, venir encore les seconder et les réaliser, et toujours par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, etc. Bien entendu, n'oublions jamais de prier au nom de notre Seigneur, car s'adresser à Dieu autrement qu'au nom de notre Seigneur, c'est courir le danger d'être terrassé, d'être foudroyé par la colère du Dieu très juste et très saint, auquel une créature déchue, impure, impie, seule s'adresse. Il faut toujours s'adresser au nom de notre Seigneur. Donc, Vota nostra, cui preveniendo aspiras, essiam adiuvando prosequere. Précision de la liturgie, parole de Dieu, parole inspirée par le Saint-Esprit à l'Église pour nous faire prier infailliblement. C'est pour ça que l'Église ne doit pas être arabustée par n'importe qui, fût-il pape, à créer des nouveaux rites, etc. Personne ne peut créer de nouveaux rites. Nous avons les rites que nous avons hérités des apôtres, des successeurs des apôtres, et nous ne pouvons pas les modifier. Celui-là est animé par l'esprit de Satan qui modifie les rites, puisque en modifiant les rites, il touche à cette lex orandi, de laquelle découle la lex credendi. Quel protestantisme mental que d'oser toucher au rite, mes très chers frères. Bon, ça, c'est pour certaines choses que vous savez. Voyez-vous, mes très chers frères, cette oraison nous dépeint la manière dont la grâce agit en l'homme racheté. Tout d'abord, elle dit « Vota nostra », c'est-à-dire nos vœux, plus précisément nos désirs, au sens fort du terme, nos désirs. Non pas les désirs, tiens, j'aurais envie de manger des pâtes ce soir. Non, les désirs, c'est-à-dire, je ne désire qu'une seule chose, le ciel. Je désire la vie éternelle. Ce désir de la vie éternelle pour moi-même est la seule manière, je vous le rappelle, pour moi de m'aimer d'une façon ordonnée. La concupiscence est l'amour désordonné de soi-même. Le désir pour soi-même du ciel est l'amour ordonné de soi-même. C'est pour ça que je dois aimer mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire je dois lui souhaiter et lui vouloir pour lui, autant que cela dépend de moi, la même chose que je me souhaite à moi-même, c'est-à-dire la vie éternelle, l'union à Dieu. Vota nostra, nos désirs. Donc, non plus notre volonté propre, mais la volonté de Dieu pour nous, embrassé comme notre propre bien par notre volonté. Bien sûr que nous avons une volonté, mais notre volonté, tant qu'elle n'est pas mise en liberté, elle ne peut qu'adhérer à des choses qui nous sont néfastes et qui nous sont damnatoires. Lorsque notre volonté est restituée à sa liberté, alors, immédiatement, nous embrassons la volonté de Dieu et tout ce qu'il veut, nous le voulons pour nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'en ce faisant, nous obéissons à la très sainte mère de Dieu qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ce sont nos vœux, nos désirs, dans le sens où ils déterminent notre éternité. Ils n'ont pas leur origine en nous, nous apprend l'Église. C'est pour ça qu'elle dit « Vota nostra, quae preveniendo aspiras ». Écoutez bien, mes très chers frères. « Quae preveniendo aspiras », littéralement, nos vœux, donc « que », relatif, « preveniendo », en nous prévenant, « aspiras », vous inspirez. C'est Dieu qui, dit saint Paul, nous donne le vouloir et le faire. Tout d'abord, le vouloir. Il nous donne le vouloir. C'est Dieu qui nous donne de vouloir. Sans lui, nous pouvons comprendre rationnellement ce que l'Église dit que l'homme normalement doit vouloir, etc. Nous pouvons comprendre rationnellement. Ce ne sont pas des choses qui sont d'ordre transcendantal et abstrait, etc. Incompréhensible simplement par une certaine élite qui a le cerveau assez malade pour comprendre des choses. Non, nous pouvons comprendre rationnellement les choses, mais sans Dieu, sans l'inspiration de Dieu qui vient du Saint-Esprit par le Christ, eh bien, nous ne pouvons vouloir efficacement. C'est pour cela qu'il y a deux terrains, parmi les quatre terrains, il y a deux terrains où le grain pousse, assez rapidement d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, mais il finit par mourir, la plante finit par mourir. Le terrain qui n'a pas qui a des pierres dessous, donc la plante n'a pas de racines, ou le terrain qui a des épines, donc la plante s'enracine, mais en même temps elle est étouffée par les épines. Si Dieu ne vient pas prévenir notre volonté et nous inspirer le contenu de notre volonté que nous voulons librement, puisque justement c'est lui qui nous remet en liberté, alors nous ne pouvons pas vouloir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons pas prier cette prière, même si nous le devons dans la mesure où nous sommes baptisés. Preveniendo, en prévenant, qu'est-ce que ça signifie? Si Dieu ne nous restitue pas l'usage de notre liberté, nous ne voulons que notre propre esclavage. Nous ne voulons que notre propre damnation. Nous ne voulons que notre propre malheur. Nous aimons notre impuissance, nous aimons notre impureté, nous nous aimons tel que nous nous connaissons, et quand bien même de temps en temps nous serions déçus et lassés de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire autrement que de vouloir, de mal vouloir. Et Dieu nous délivre de la mauvaise volonté en prévenant nos vœux. Mais voyez-vous, mes très chers frères, il ne suffit pas que Dieu nous inspire, c'est-à-dire en nous donnant la foi. Je ne parle pas d'une inspiration bizarroïde, mysticoïde, l'inspire, c'est-à-dire il nous donne la foi. Il ne suffit pas que Dieu nous inspire, il faut encore qu'il nous donne le faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vouloir, mais sans Dieu encore, nous ne pouvons pas faire. Et c'est pour cela que l'Église ajoute « Etiam adjuvando prosequere ». Vous qui prévenez nos vœux et qui nous les inspirez, aussi, etiam, aussi de même, adjuvando prosequere, qu'est-ce que ça signifie? En nous aidant, réalisez-les. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième prière? Venez aussi, etiam. L'efficacité de la grâce exige une assistance continuelle, nous disent les théologiens, pour tout bien que nous devons faire. Dieu ne nous donne pas la grâce comme une sorte de premier mouvement, du premier moteur d'Aristote. Il met le monde en branle et ensuite après il s'endort ou il se désintéresse du monde. Non, Dieu est constamment à l'œuvre en nous. S'il ne l'est pas, nous tombons instantanément. Adjuvando, qu'est-ce que ça signifie? En nous aidant, littéralement. Mais attention, par la grâce du Christ, en nous donnant la grâce du Christ. Comment est-ce que Dieu nous aide? Ce n'est pas au Créateur que nous demandons sa grâce. Sa grâce, la grâce du Créateur, si on peut parler de grâce, certains théologiens l'utilisent à tort à mon avis, mais disons, mettons, si parler de demander au Créateur sa grâce, c'est se payer sa tête. Voyez-vous ce qu'on en a fait de sa grâce quand nous étions en état d'innocence dans notre père, notre premier père? Maintenant, nous ne lui pouvons que lui demander la grâce du Christ, qui sous un certain rapport est plus forte, mais aussi parce que nous sommes plus malades. Et donc, du coup, il se trouve que la grâce du Christ, c'est cela, l'aide de Dieu. L'aide de Dieu est totalement gratuite pour nous, mais comme nous le disions il n'y a pas si longtemps, elle a été extrêmement coûteuse pour Dieu, puisqu'elle a coûté, elle lui a coûté l'incarnation, donc l'abaissement, le dépouillement de la gloire, le dépouillement apparent de la gloire, l'incarnation de son Verbe, le dépouillement de sa gloire, sa réduction à l'état d'esclave, c'est-à-dire à l'état d'homme, à l'exception du péché, la passion, la mort de notre Seigneur, et une mort ignominieuse, la mort du calvaire. Donc voyez-vous, quand nous disons « Seigneur, aidez-nous » ou « En nous aidant, Seigneur », en nous aidant, considérons tout ce que Dieu a fait pour pouvoir nous aider. Ce n'est pas le Créateur offensé qui nous aide comme ça en nous tendant la main parce qu'après tout, il veut qu'on reste potes. Puis comme disait, je ne sais plus trop quel moderniste, disait « Après tout, l'histoire commune de l'homme et de Dieu n'est pas terminée ». Bien sûr qu'elle est terminée, c'est fini, c'est terminé. Et s'il n'y avait pas la grâce du Christ, tout le monde, la création ne serait qu'un flux d'alimentation de l'enfer permanent. Et heureusement que le Christ est venu. Heureusement que Dieu a voulu nous aimer dans le Christ. Heureusement que ceux qui sont à Dieu ont été aimés par Dieu, de telle sorte qu'ils soient sortis de la masse de damnation, comme dit notre Saint-Père, qu'ils soient sortis de la masse de damnation par l'œuvre rédemptrice et réparatrice du Christ. Quand nous faisons le bien, c'est par Dieu, c'est par cette aide de Dieu, c'est par la grâce du Christ que nous faisons le bien. Et quand nous faisons le mal, c'est par nous-mêmes que nous le faisons, à cause de la chute, à cause de la rémanence de la concupiscence, à cause de cette absurdité qui fait que nous voulons encore, nonobstant la connaissance que nous avons de la vérité, que nous voulons continuer encore, je parle pour moi en premier, que nous voulons continuer encore à faire notre volonté propre par moments et trop souvent. Voyez-vous, mes très chers frères. Quand nous faisons le bien, c'est par lui. Quand nous faisons le mal, c'est que nous lui lâchons la main, si j'ose dire, mais c'est presque trop peu dire. C'est-à-dire c'est que nous nous suicidons en réalité. Et en nous aidant, nous fait dire l'Église, prosequere. Qu'est-ce que ça signifie? Prosequere, ça signifie réaliser nos vœux, mener nos vœux, notre désir, les désirs que nous avez inspirés avant même que nous les ayons, parce que sans vous, nous ne les aurons jamais eus. Faites prospérer, faites réaliser nos vœux, menez nos vœux à leur terme, menez-nous à votre divin Fils pour que nous devenions participants de la nature divine. Donnez-nous la grâce du réparateur, votre divin Fils, afin que nous soyons justes et que nous participions dès ici-bas de la nature divine, pour que cela, de telle sorte que cela soit consommé dans la gloire, dans l'au-delà. Le Christ, notre Pâques, a tout accompli, mes très chers frères. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure dans le graduel, voici le jour que le Seigneur a fait, c'est aujourd'hui le jour de la résurrection, ce jour perpétuel, le huitième jour, passons-le dans la joie et dans l'allégresse. Voilà ce que doit être la réalité de la pénitence chrétienne, joie et allégresse. Rendez hommage au Seigneur, car il est bon dans son Fils, et pas autrement, et pas ailleurs, car sa miséricorde dure à jamais. Seigneur, ne nous abandonnez jamais, et c'est pour cela que nous disons avec la séquence de tout à l'heure, nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, et alors, qu'est-ce que ça nous fait? Et vous, ô roi vainqueur, ayez pitié de nous. Qu'est-ce que ça nous fait si nous ne le savons que rationnellement? Ô roi vainqueur, ayez pitié de nous. Vainqueur de la mort, mais vainqueur de la mauvaise volonté, vainqueur de cette mauvaise volonté qui nous fait aimer notre propre mort. Ô roi, et vous, ô roi vainqueur, rex et nobis, nobis victor rex, tu nobis victor rex, miserere. Amen. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci.